L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires », podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques français ou internationaux. À l'occasion de la deuxième rencontre de l'ADES, Association pour le développement des données sur l'économie sociale, l'Institut Montparnasse souhaite donner la parole à différents experts pour évoquer la question des porosités entre l'ESS et les plateformes numériques. Pour le 29e épisode, nous accueillons Corinne Vercher-Chaptal, qui est professeure des universités en sciences de gestion, chargée de mission SHS, campus Condorcet, Université Sorbonne-Paris-Nord. Bonjour Corinne Vercher-Chaptal. Alors vous avez dirigé un rapport qui s'appelle le rapport Tapas. C'est un rapport sur les plateformes coopératives. Est-ce que vous voulez bien nous en donner les modalités et puis surtout évidemment les résultats ?
Oui, bien sûr, tout à fait. C'est un rapport qui a été financé par la DARES puisque c'est une recherche qui s'est déroulé à la suite d'un appel à projet qu'a lancé la DARES sur l'économie collaborative et la protection sociale. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là qu'il a été mené. Il a été mené par une équipe de chercheurs. On était assez nombreux, émanant de différentes disciplines. Donc c'était une équipe pluridisciplinaire. Et les résultats sont ancrés dans des études de terrain, puisque nous, notre propos, c'était justement... L'idée était de partir du fait que l'offre des plateformes numériques, elle ne se réduit pas aux seules propositions des grandes plateformes capitalistes qui occupent souvent les débats et qui sont extrêmement visibles, et que à côté ou derrière ou sous ces grosses plateformes, à différents endroits du monde, il y a bien de nouvelles initiatives qui émergent et qui se démarquent justement des modes de fonctionnement très centralisés et très extractifs des plateformes oligopolistique et tous les dysfonctionnements qu'elles peuvent amener en termes de désintégration du travail, parfois des territoires, etc. Donc nous, notre méthodologie, ça a été d'aller rencontrer, de faire des études de cas en profondeur de ces initiatives en France de plateformes alternatives.
Quels sont les éléments importants, centraux de cette étude ?
Un des éléments qui nous est assez rapidement apparu et qu'on a vraiment considéré comme un point très distinctif, c'est que finalement, ces initiatives qu'on observe dans les différents secteurs, que ce soit le secteur de la mobilité partagée, que ce soit le secteur de l'hébergement, de l'hospitalité, que ce soit celui de la livraison à vélo, on a eu plusieurs secteurs d'activité, j'en cite là quelques-uns, et bien chaque fois, sur leur secteur d'activité, ces initiatives, elles ne cherchent pas à adapter ou à améliorer les modèles de plateformes dominantes existantes en limitant, par exemple, leur externalité négative. Mais au contraire, elles cherchent plutôt à inventer dès le départ de nouvelles formes et donc une autre offre de services, une autre offre de valeur différente et dont la particularité de cette offre de services et de valeur, c'est de s'inscrire dans des finalités de transition environnementale et sociale. Pour le dire clairement et autrement, en fait, ces initiatives-là, ces plateformes-là, elles ne cherchent pas tant à faire autrement qu'à faire autre chose. Et en ça, elles sont porteuses de nouveaux modèles.
Donnez-nous, si vous voulez bien, un exemple.
Alors, sur le secteur de la mobilité, donc on a étudié une plateforme qui s'appelle Mobicop, qui est une plateforme de mobilité partagée et tout particulièrement de covoiturage. Et cette offre de covoiturage, elle l'inscrit dans une finalité qui est celle de la transition écologique et tout le projet de cette initiative qui est marchande, puisqu'en partie inscrite sur le marché, on y reviendra, tout le propos de cette initiative, c'est de lutter contre les émissions de CO2 en luttant contre l'autosolisme. On peut avoir un autre exemple dans le circuit, un autre exemple de plateforme comme CopCircuit qui qui dépend d'une association qui s'appelle Open Food France. Et Open Food France, elle propose un logiciel métier à destination des producteurs organisés en circuit court. Et tout le propos est justement d'articuler santé et alimentation, de se battre pour de meilleurs revenus pour les agriculteurs. Donc on voit qu'à chaque fois, il y a l'offre de service s'inscrit dans des finalités soit environnementales, comme l'exemple de Mobicop, soit sociales. Et là, je peux bien sûr citer aussi Copcycle, qui est une coopérative de livreurs à vélo. Et l'idée, là, pareil, on trouve un logiciel métier de livraison qui est destiné à des livreurs qui s'inscrivent en coopérative et dont la finalité est certes d'assurer de la livraison, mais de la livraison décarbonée et dans des conditions qui garantissent une certaine protection sociale des livreurs, d'où la forme coopérative.
Alors, parmi vos observations, j'imagine que certaines sont dirigées sur la façon dont ces plateformes fonctionnent, leur gouvernance, leur modèle économique, la gestion de la donnée. Est-ce que vous avez pu tirer des enseignements ?
Oui, alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce positionnement, cette capacité à inscrire une offre de service dans des enjeux de transition, il est lié à leur positionnement qui est au croisement de deux approches, qui est au croisement de l'approche coopérative. Elles empruntent à la tradition coopérative et notamment la protection des salariés avec ce double statut qu'offre la coopérative de salariés associés. Donc, d'ailleurs, le mouvement des plateformes coopératives s'est développé pour lutter contre les formes d'ubérisation via le modèle de propriété partagée, mais elles s'ancrent aussi dans une logique de commun numérique et de logiciel libre, où là, la finalité est l'universalité de l'accès et le fait d'assurer un partage et un accès universel aux ressources numériques. Et donc on a des plateformes qui articulent modèle coopératif et ouverture de leur code et ouverture de leur plateforme. Et donc, ça donne des modèles économiques qui sont hybrides, finalement, puisque on va à la fois articuler du principe marchand, mais aussi du principe non marchand, notamment autour du commun, du principe réciprocitaire. Et là encore, si vous le souhaitez, je peux donner des exemples plus précis. Alors, ce modèle économique hybride, et qui est dans le marché tout en s'émancipant en partie du principe marchand, il est très lié justement à l'offre de valeur qui est plus large que la seule rentabilité économique. Prenons par exemple le cas de Mobicop. Son propos est donc de déployer et de faire en sorte qu'il y ait un usage le plus important possible du covoiturage. Donc, il développe une plateforme grand public qui permet de mettre en lien des covoitureurs avec les passagers. Et cette plateforme, elle est grand public, elle est gratuite. Donc, c'est un commun numérique, son code est ouvert, elle ne peut pas être captée, elle ne peut pas être prédatée, elle reste ouverte et l'accès à la plateforme n'est pas payant, c'est-à-dire que la plateforme ne prélève pas de commission. Par ailleurs, il y a une autre partie de l'activité de Mobicop qui, lui, se trouve sur le marché, puisque à partir de cette plateforme grand public, la coopérative va proposer des plateformes à marque blanche et des services de covoiturage qu'elle va vendre aux collectivités territoriales, notamment. Et donc, on va avoir une activité qui, à la fois, est dans et hors marché. Et finalement, on va avoir la partie marchande de l'activité, qui est la vente de services aux collectivités territoriales, qui va financer la partie non marchande, enfin qui tend à financer la partie non marchande, c'est-à-dire la plateforme grand public, qui elle reste ouverte, puisqu'il y a bien l'idée d'un accès universel au covoiturage, et plus on aura de covoitureurs, et bien plus la finalité écologique sera, si ce n'est atteinte, progressera.
Alors, du point de vue de l'ESS, est-ce que le modèle que vous venez de décrire existait déjà, ou est-ce que c'est une forme de renouveau pour l'ESS ?
Ce qui est une forme de renouveau pour l'ESS, et en tout cas pour la tradition coopérative, il me semble, c'est que, ici, sur les initiatives que l'on a étudiées, Le fait que la coopérative s'articule avec une logique de commun qui, dans le numérique, est pensée pour l'ouverture et l'universalité de l'accès, on va avoir comme renouveau que la coopérative s'ouvre aux intérêts qui dépassent les intérêts des membres coopérateurs. Alors, vous me direz, le statut de SIC, Société d'intérêt collectif, permettait déjà cette ouverture, et c'est pas pour rien que toutes les initiatives que l'on a observées tentent de s'institutionnaliser sous le statut de SIC. Donc il y a quand même cette ouverture à une pluralité de parties prenantes qui est là renforcée, qui était déjà via la SIC dans le mouvement coopératif, mais là on y est en plein, et puisque l'acteur public aussi peut être concerné, peut rentrer dans la gouvernance, et donc avec cette pluralité d'acteurs, on a aussi une pluralité d'intérêts, et avec des espaces au sein desquels ces intérêts peuvent être délibérés, et on se rapproche de formes d'intérêt collectif ou d'intérêt général. L'autre point, il me semble, c'est que par rapport à l'activité économique que permet la coopérative, il y a quand même, au travers de la présence d'un commun, il y a une forme de réencastrement de l'activité économique qui est finalement opérée par le commun. Ce commun, soit c'est la plateforme qui fournit le logiciel métier, et ce commun, il va servir de base pour une activité économique dans une sphère marchande, c'est typiquement le cas de Mobicop. Soit ce commun, il est utilisé par des communautés pour mener différemment une activité économique. Et ça, c'est le cas de Copcycle, qui utilise ce logiciel métier pour mener une activité de livraison tout en ayant pour objectif de protéger les intérêts des salariés en tentant de leur offrir un statut salarié. Donc il y a quand même cette idée d'un réencastrement d'une activité économique qui a, dans le contexte marchand, concurrentiel actuel, toujours tendance à se désencastrer, y compris dans la forme coopérative, qui là est quand même, nous semble-t-il, réencastré par cette logique de commun qui permet du coup des modèles économiques hybrides où il n'y a pas que le principe marchand, mais où il y a aussi du principe réciprocitaire autour de ce commun.
Alors, ces formes que vous avez qualifiées à l'instant d'hybrides, est-ce qu'elles sont bien comprises, bien vécues par les différentes communautés de l'ESS ?
Je ne peux pas nécessairement vous répondre à cette question parce qu'on s'est situé à la frontière et des communs et de l'ESS. Je suis pas sûre qu'on ait pendant les moments où on a mené nos recherches et où on a un petit peu analysé les résultats. Je suis pas sûre qu'on ait pensé depuis le cœur de l'approche des communs ou depuis le cœur de l'approche coopérative. Et de fait, c'est pas forcément comme ça qu'on présente nos résultats. Donc peut-être ça aide pas forcément aux deux approches, que ce soit les communs ou la coopérative, à saisir toute la nouveauté dont le renouveau dont c'est porteur. Mais en tout cas, on œuvre pour montrer que quand la coopérative rencontre, et vice-versa, l'exigence d'ouverture et de forme d'universalité de l'accès qui est portée par les communs numériques, ça déplace quand même la finalité de la coopérative dans le champ d'un intérêt général. Et si on est dans le champ d'un intérêt général, ça implique de s'émanciper quand même de modèles économiques purement marchands.
Se pose sans doute assez naturellement la question de la pérennité de ces nouvelles organisations ouvertes sur un univers effectivement qui n'est pas forcément favorable. Quel est votre point de vue sur cette question ?
Oui, c'est l'enjeu, c'est l'enjeu parce que à partir du moment où elles proposent une offre de valeur qui n'est pas destinée pour être valorisée uniquement par le marché, se pose de la question de qui valorise. Se pose donc aujourd'hui très clairement, il n'y a pas le nombre d'utilisateurs qui permet à la fois des fonctionnements optimaux. On est quand même sur le monde de la plateforme, des effets de réseau. Donc ça peut pas rester des niches. Et par ailleurs, la dimension numérique, même si vous aurez l'occasion peut-être d'interviewer d'autres personnes du projet. Je pense à Philippe Hainaut notamment, qui s'est plus intéressé sur la partie tech du projet, même si elles sont économes en données, elles ne profilent pas hein, les utilisateurs pour différentes raisons. Il y a quand même des besoins d'investissement. On est sur le monde tech de la plateforme et elles en manquent terriblement parce que l'argent public ne va pas forcément vers le financement de ce type d'initiative mal connue et mal reconnue et qui rentre mal dans les cases des dispositifs institutionnels actuels, y compris ceux de l'innovation.
Merci infiniment Corinne Vercher-Chaptal pour cet éclairage sur le rapport TAPAS qui nous dit beaucoup de ce que peut être l'ESS d'aujourd'hui et de demain au travers et avec les plateformes. Merci infiniment.
Merci à vous.
Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media ainsi que sur toutes les plateformes.